Je suis totalement satisfait.
Et c'est une compagnie au cas d'engage. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, cette unité de maîtrise qui doit trouver une solution par rapport à ça.
Bienvenue à l'écoute de Parole aux auditeurs, le premier numéro de la semaine de l'émission 100% interactive de Radio Capi. Le sujet en discussion aujourd'hui, c'est la sécurité aérienne. La RDC a connu un nouveau crash. L'accident de la compagnie aérienne, l'avion de l'accident de la compagnie aérienne Silène, s'est produit le 25 août dernier dans la province du Bandundu, faisant près de 20 morts. Depuis 2000 à ce jour, près de 10 cas de crash d'avions sont enregistrés en RDC, entraînant des centaines de morts et d'importants dégâts matériels. Et comme d'habitude, une enquête est ouverte, enquête qui souvent aboutit rarement et souvent nous n'avons pas les conclusions de ces enquêtes. Les faits sont sacrés, les accidents d'avions sont recourants en RDC. Quelles mesures faut-il prendre pour assurer une meilleure sécurité de l'espace aérien congolais? Vous voulez intervenir, faire un témoignage, donner votre avis, vos propositions, n'hésitez pas à nous contacter. Kéroïla Meiji, Nicole Ngaka sont à la réalisation de cette émission. Dieudonné Nyangasa est à la mise en œuvre.
Parole aux auditeurs. Par internet, ca@radiookapi.net.
Si vous voulez participer à cette émission, vous avez deux possibilités. Nous contacter au 081-890-6315, le 081-890-6315, ou nous écrire à l'adresse internet ca@radiookapi.net, comme l'a fait d'ailleurs Hubert qui réagit face à cette discussion, face aux accidents d'avion que connaissent la RDC, ces crashs qui sont devenus de plus en plus récurrents. Il dit, pour assainir le secteur aérien en RDC, moi je pense qu'il faut réaménager les infrastructures là où elles existaient, ou encore construire là où elles n'ont jamais existé. Donc il fait allusion plutôt aux routes. Il faudrait qu'on puisse réhabiliter les routes, les maintenir ou en construire. Et autant aussi qu'il faudrait moderniser les tours de contrôle, bien payer les agents de la RDA, ressusciter la compagnie nationale aérienne, être beaucoup plus exigeant envers les compagnies privées exploitant ce secteur et punir celles qui connaissent, qui ne sont pas en fait, qui ne respectent pas les normes. Voilà autant de propositions d'Hubert qui nous a écrit à partir de Bukavu. Nous avons Patience qui est en ligne. Bonjour Patience.
Oui, bonjour.
Oui, on vous écoute, vous êtes à Kananga, vous avez suivi l'actualité. Maintenant, on compte près de 10 cas en 10 ans d'accidents d'avion. Vraiment, c'est assez difficile. Dites-nous, pour vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour assurer une meilleure sécurité de l'espace aérien congolais?
Pardon?
Selon vous, que pensez-vous qui devrait être fait pour assurer une meilleure sécurité de l'espace aérien congolais?
Oui. Pour moi, je pense qu'il faut améliorer quand même l'espace aérien. Après, il faut qu'on garde quand même en position le carburant.
Mmh. Donc, vous pensez qu'il faudrait qu'on positionne le carburant un peu partout?
Oui.
Merci beaucoup, Patience, vous êtes à Kananga. Vous avez réagi face à la question d'aujourd'hui, la sécurité aérienne en RDC. Nous allons écouter aussi Jerry qui est à Bandundu. Bonjour. Jerry?
Oui, allô?
Oui, on vous écoute. Quelles sont vos propositions?
Bon, je vais faire des propositions. Vraiment, je ne sais pas si ça ne fait pas des classes.
S'il vous plaît, Thierry, on ne vous suit pas très très bien. La réalisation va essayer de vous recontacter. Peut-être que la qualité sera meilleure. Mais essayez quand même de vous déplacer. Soyez à un endroit assez calme. Alors, il y a moins de béton. Soyez même à l'air libre, même dehors. Mais qu'on puisse mieux vous écouter. Comme ça, nous pourrons suivre toutes vos réactions. Comment vous pensez qu'il faudrait, ce qui pourrait être mis en place pour améliorer la sécurité de l'espace aérien congolais.
Parole aux auditeurs.
Nous revenons dans ce studio et nous avons notre invité. C'est l'un des premiers pilotes en RDC. Bonjour. Vous vous présentez à tous nos auditeurs.
Alors, merci beaucoup, c'est commandant Ilunga Mikanda de l'AC, et je suis directeur d'opérations chez l'AC.
Donc vous avez vraiment une bonne connaissance dans ce secteur, ce domaine. Aujourd'hui, parole aux auditeurs, nous en parlons. Les accidents d'avion sont fréquents en RDC et toutes les compagnies aériennes congolaises, une cinquantaine identifiées, figurent sur la liste noire de l'Union européenne qui leur a interdit son espace aérien. L'avion demeure néanmoins en RDC le moyen de transport par excellence, capable de relier les coins et recoins de notre immense territoire. Les routes, on ne peut pas vraiment compter dessus parce qu'elles sont souvent en mauvais état, pas d'entretien, même s'il y a certains efforts que nous reconnaissons du gouvernement dans la réhabilitation, mais on sent que les besoins sont énormes. Et aussi difficile de compter sur le chemin de fer, et moi encore sur les voies maritimes. Donc, nous avons reçu certaines données, près de 10 cas d'accidents d'avion en 10 ans. En tant que pilote, est-ce que ces chiffres-là ne vous fait pas froid au dos?
Si, madame, ce chiffre, bien sûr, m'attraie, mais pas tellement, parce que je ne crois pas que ce soit vraiment le dernier accident que nous connaissons, puisqu'on en connaît encore plus, parce qu'il y a plus de 20 ans déjà. Je suis passé ici, devant votre studio, pour relever un peu tous ces cas, mais je voulais d'abord présenter toutes mes condoléances à la famille justement de l'équipage, notamment à Denis Pierre-Motte, qui a quand même volé avec moi d'ailleurs chez l'AC. Je sais que c'est un excellent pilote, et également son copilote que je ne connais pas tellement, mais également aussi à la famille, donc à tous ceux qui étaient à bord. J'ai appris même qu'il y a eu vraiment des sommités qui étaient à bord, que nous avons perdu comme ça. Ça fait que la République est en train de perdre ses enfants les plus chers, qui pouvaient encore continuer à nous aider dans tel ou tel domaine bien déterminé. Bon, sur ce, madame, je dois vous dire que les accidents se passent effectivement, mais nous avons déjà, il y a 2 ans, ici, un cas aussi d'un aide 410, qui s'est écrasé à Marimakoulou, dont nous n'avons toujours pas de rapports officiels jusqu'à présent. Parce que c'est bien de faire des missions où nous relevons tous les dépôts, mais il faut quand même que nous ayons des rapports officiels pour pouvoir aider aux compagnies aériennes justement de prendre les dispositions qui s'imposent pour la question d'éviter tout ça. Quoi.
Oui, mais souvent l'avion est considéré comme le moyen de transport le plus sûr, mais pourquoi pas en RDC?
Justement, l'avion doit être le moyen le plus sûr, mais quand on dit un accident, que ce soit pour une voiture, pour un vélo, pour une moto, l'accident, c'est plutôt... On ne le prévoit pas, c'est le début d'un événement, c'est le début vraiment d'un fait qui commence à se développer. Dès qu'il y a conscience de l'existence d'un système qui n'est pas sûr. Donc, on doit quand même pouvoir se rendre compte que c'est une succession d'effets, des causes qui sont liées aux problèmes d'ordre mécanique, d'ordre avionique, la navigation aérienne, facteur humain. Tout ça, c'est important. Ça dit qu'on doit toujours, prendre conscience de tout cela. Et la dernière fois, je vous avais dit qu'on devait, en principe, je ne suis pas ici pour donner des leçons à qui que ce soit, ni à moi-même, mais je suis là uniquement pour contribuer à ce que nous voyons, ce que nous devons faire. Mais je crois que la première, personne qui doit être intéressée dans cette affaire, c'est l'autorité, en cette matière-ci. Je crois que la prochaine fois, au lieu que nous venions dire ce que nous on doit faire dans l'aviation, nous aimerions plutôt entendre d'abord les dispositions prises par les responsables dans ces domaines, et nous viendrons y agir pour voir exactement ou bien apporter une expérience que nous avons en cette matière, plutôt que leur donner des leçons. Vous voyez, nous ne sommes pas habilités en principe à pouvoir leur donner, mais je peux déjà vous dire que ce qu'il faudrait faire, c'est de prévoir quand même des choses, des systèmes de surveillance. Mm-hmm. Je vous l'avais dit la fois passée, des systèmes de surveillance efficaces. Ça, c'est vraiment très important. Et puis ensuite, il faut s'assurer de la bonne gouvernance de ces moyens efficaces de surveillance. Mm-hmm. Il faut penser à la modernisation également des choses de la technologie moderne, nouvelle. Mm-hmm. On doit penser également à des normes de haut niveau en matière de formation du personnel.
Oui, il y a plein de recommandations, nous allons y revenir, mais aussi ce qui est assez, ce qui gêne un tout petit peu, parce que quand même l'avion, c'est pas comme un véhicule. Normalement, les accidents d'avion devraient se compter sur le bout des doigts, parce que dans l'avion, on investit autant de moyens, et quand on arrive à un crash, vraiment là, on n'arrive pas souvent à comprendre, même si c'est un accident.
Oui, c'est comme je vous l'ai dit, nous devons éviter justement ces accidents-là. Mm-hmm. Nous devons les éviter.
Nous allons écouter nos auditeurs, ce qu'ils pensent, pour qu'ils s'expriment, qu'ils témoignent, qu'ils donnent leur avis, leur proposition.
Parole aux auditeurs.
Marielle Lecian a pu recontacter Géry, bonjour.
Bonjour madame.
Oui, Géry, est-ce que vous pouvez éteindre votre poste récepteur qui se trouve à côté de vous et on vous écoute.
Bon, je vous salue d'abord pour l'initiative de cette émission.
Mm-hmm. Oui, Géry.
Je ne sais pas madame, vraiment, dans l'ancien temps, il n'avait pas de crash d'avion. Bon, dans ce moment, donc vous constaterez que, donc vous attendez, il y a les crashs d'avion. Donc ça, déjà, si tu trouves là, l'obligant, donc c'est fait comme ça. Donc c'est là-dessus déjà, madame.
Mm-hmm.
Donc je ne sais pas, le ministère des Transports, dans l'achat, l'avion, avant de se tirer ou bien de se retrouver sur la terre, on contrôle cela. Donc dans tous ces cas-là, ici, vraiment, avant de nous, on ne sait pas même cela. L'avion vient, ça dépose des bagages, ça dépose des chats et ça part. Donc, vous pensez à cela, donc c'est ce que je peux dire, donc c'est vraiment malheureux.
Mm-hmm.
Hein? Mm-hmm. Lors du dernier, j'étais là même, c'est moi qui l'ai, madame. Donc, si vous regardez la vie des gens qui se trouvent à la mort, mais ça vous fait vraiment pitié.
Mm-hmm. Hein? Merci.
Donc, on dit que l'avion a une panne sèche. Mais je ne sais pas si l'avion a une panne sèche. Oui, madame. Allô.
Oui, Géry, vraiment, vous êtes vraiment sidéré face à cet accident. Nous vous disons merci, à moins que vous ayez une proposition pour qu'on puisse améliorer la situation. Géry ?
Bon, allô.
Mm-hmm, on vous écoute.
Pour moi, on met une service qui est là à l'aéroport, quand l'avion vient. On contrôle cela avant de se décoller, on contrôle. S'il y a du carburant, ça va. S'il y a des pannes moteurs, on répare avant que l'avion se décolle.
Merci beaucoup, Géry, pour votre proposition. Il faudrait qu'on puisse souligner que nous avons contacté le ministère des Transports et des Voies de Communication. Vous avez promis de pouvoir nous envoyer quelqu'un dans ce studio pour pouvoir répondre à toutes ces préoccupations, surtout à vos préoccupations, vous, auditeurs. Mais jusque-là, cette personne ne s'est pas encore manifestée. Peut-être qu'elle pourra venir d'un moment à l'autre au cours de l'émission. Merci beaucoup, Géry, pour votre participation. Bonjour, Héry.
Bonjour, madame.
Héry, vous êtes à Goma, on vous écoute.
Je suis à Goma, oui. J'ai aussi appris cet accident qui s'est produit dans la province de Bandundu, puisque tu nous as aussi étendu. Congolais est un peu doté d'une chair. On a vraiment été ému de cet accident. Mais oui, que la responsabilité serait dans le cas des autorités qui sont dans la sphère des régions de voies aériennes. Parce que vous me souvenez à l'époque où il y a eu encore une recrudescence des crashs d'avion, il y a eu une des communes qui a été incendiée par un avion qui appartenait à la compagnie d'aviation appelée Windigira Airways. Le ministre de cette époque avait fait toute une panoplie de mesures, du coup voilà, à chaque fois qu'un avion veut décoller, doit avoir autant de stabilité. Mais le même ministre a été évoqué par le gouvernement central comme quoi il n'était pas à la hauteur de ses assignations. C'est le même problème qui résout. Bon, moi, si tu veux ce problème, je veux dire plutôt que c'est un problème de la conscience. Les gens qui doivent ordonner à ce que les avions décollent d'abord doivent leur contrôler, voir leur fiabilité. Si normalement, un avion à un état pareil doit voler, pour que, à chaque fois qu'il va atterrir, les gens se retrouvent dans un état où ils ne doutent d'aucun accident. Mais on a tendance à dire que l'avion qui était là, qui provenait, les autorités des régies de voies aériennes connaissaient bien que c'est. Bon, normalement, vous pouvez avoir un accident, mais ils se sont arrangés suite à leur groupe de commission qui se sont fait. Bon, ils ont ordonné l'avion à pouvoir partir. Voilà qu'il n'a pas atteint réellement leur atterrissage. C'est un peu ça ma conscience. Il y a un problème de la conscience.
Merci beaucoup, Eri. Vous êtes à Goma. Vous décriez la corruption, le manque du. On ne respecte pas les mesures qui sont prises en vue de pouvoir éviter ces genres d'accidents et vous souhaitez qu'il puisse y avoir plus de contrôle. Merci pour votre intervention. Bonjour, Kiumbamba.
Bonjour, Madame Chantal Lumba, et mes condoléances aux différentes familles de toutes les victimes de l'accident d'avion.
Vous êtes à l'ICACI, on vous écoute. Quelles sont vos propositions?
Merci beaucoup, Marie Chantal. Mais ce que je n'ai jamais cessé de dénoncer, c'est la politique actuelle de notre pays, de la RDC, dirais-je. Mais en voyant, j'aime toujours appliquer, qu'on puisse appliquer la politique de mieux vous prévenir et de pourquoi toujours à RDC, il faut toujours qu'on puisse avoir des dégâts matériels en vie humaine et autres pour qu'on puisse maintenant changer à l'éradication. Ce que je veux dire, c'est celui-ci. J'ai constaté beaucoup plus que les Congolais sont toujours, je ne sais pas, délaissés. Nous avons parlé l'autre fois à l'émission passée, je ne sais pas, c'est toujours sur les gens de la radio Kati, concernant qu'est-ce que les Congolais peuvent faire pour en profiter de leurs ressources. On avait parlé de contrats au niveau des magies. Pourquoi ne citer cette ressource minière? Parce que c'est celle qui peut vous aider à une bonne fabrication des pièces d'avion. Mais pourquoi pas, on va toujours assister à des dégâts comme ça. Et donc, pour laquelle moi, je dis souvent, quand je deviens amateur, soi-disant ambassadeur de la population de Kassel, j'aime dénoncer la RVA, la Régie des Voies Aériennes. C'est un service de la Régie. C'est-à-dire que ce service a son budget propre, son autonomie financière, juridique et autres. Pourquoi la RVA ne peut pas préconiser les moyens pour collaborer correctement avec les gens qui produisent des contrats pour qu'on puisse fabriquer de véritables pièces d'avion pour qu'on puisse pas arriver à des catastrophes humanitaires comme ça. C'est un peu ça, Marie Santalumba, en résumé, je vous dénonce la politique de la RDC, chaque jour.
Merci beaucoup pour votre intervention. Vous dénoncez la politique. Vous pensez qu'il faudrait produire sur place, essayer d'améliorer les choses à partir de ce que nous avons sur place. C'est votre point de vue. Merci pour votre intervention. Bonjour, Mauricio.
Oui, bonjour, Marie-Chantal Lumba, ici qu'à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Vous êtes à Béni, on vous écoute.
Oui, ce que nous sommes en train de décrier si fort, c'est d'abord la vie des nationaux, la vie des Congolais, qui est mis comme des animaux aujourd'hui, avec tous des appareils roulants, qui sont aujourd'hui considérés comme des cercueils roulants. Le grand problème qui se pose, c'est quoi? Nous avons voulu qu'il y ait un souci de qualité qui doit se traduire également par l'importante dépense pour l'achat d'appareils et d'équipements de maintenance et aussi pour la formation des cadres techniques. Et je ne sais pas si la RVA, dans ce cadre, comment on voit les états des appareils qui volent à partir des aéroports, il y a des agents. Nous sommes en train de crier, nous voulons vraiment que les Congolais soient respectés de la vie et avoir les soucis des autres Congolais, de voir la RVA et la présence de l'État des aéroports, de voir dans quel état
dérouler tel avion ou qui va porter la vie déjà. C'est la raison pour laquelle nous disons de maintenir la principale destination, de voir les destinations et des carences et rapprocher des standards de qualité internationaux des appareils qui roulent en République démocratique du Congo.
Mmh. Merci Mauricio. À partir de Bénin, prenons le dernier intervenant de cette première série. Bonjour Gaylor.
Bonjour Mauricio.
Et à Kananga, on vous écoute.
Oui, je veux intervenir selon ce que mes premiers intervenants ont dit.
Mmh.
Le premier a dit qu'il faut améliorer la situation. Il faut que l'RVA commence à améliorer sa situation. Et bien sûr, nous voyons actuellement au Congo les appareils que nous avons. C'est 2-3 mois après les appareils tombent en panne, ceux qui vont chercher encore des dégâts, des accidents, tout ça. Pourquoi ? Ces appareils-là ont déjà fait des travaux en Europe. Il a fait des travaux. Les blancs ont dit que non, l'amortissement de cet appareil, par exemple, c'était de 5 ans. Nous avons déjà fait 4 ans et demi, 3 ans et demi. Il faut vendre cet appareil. Nous avons vendu aux Africains. Et puis les Africains aussi qui partent acheter les appareils là, mais ne demandent pas l'amortissement. Comment ces appareils étaient. Bon, on avait fabriqué ça en quelle année, tout ça, pour étudier l'amortissement de ça. Et puis, du mal encore à l'HCA. Quand les appareils descendent au Congo, au pays, ils peuvent regarder l'appareil, à de quoi nous vient. L'appareil a fait l'amortissement. S'ils n'ont pas regardé, sinon ils ne font pas ça, ils peuvent engager les ingénieurs qui sont là pour regarder l'appareil, comment tout ça, pour éviter les dégâts.
Mm-hmm.
Alors,
oui, on vous écoute, Guido.
Oui, pour éviter les dégâts. C'est là où c'est une reste comme ça, on vient sur des dégâts au Congo. On vient sur des dégâts parce qu'ils n'ont pas de nouveaux appareils. C'est ça que je sais que j'ai dit, ils n'ont pas de nouveaux appareils au Congo. Il faut toujours des appareils qui ont déjà fait, les travaux en Europe, en Asie et partout ailleurs.
Merci. Merci beaucoup, Gaylor, pour votre intervention à cette émission. Vous êtes à Kananga, au Café Occidental.
Parole aux auditeurs.
Commandant Ilunga, nous revenons à vous. Vous avez suivi nos auditeurs, plusieurs propositions. Vous êtes un expert en la matière. Avant qu'un avion puisse décoller, comment souvent ça se passe?
Merci, madame. Je dois d'abord redire que parlons d'abord de l'avion.
Mmh.
L'avion est un élément très important. Et surtout, le Congo, la République démocratique du Congo, a besoin d'un avion pour se développer. On ne peut pas faire autrement. Le pays est tellement vaste, les distances sont grandes, pour pouvoir en tout cas mieux servir ce pays, et très rapidement, d'une façon d'ailleurs rentable, c'est l'avion. Qui dit avion, ça veut dire qu'il faut absolument avoir des moyens. Parce que quand vous achetez un avion, il coûte cher. Cet avion, non seulement il coûte cher, vous devez avoir de l'argent, et vous devez comprendre que même pour le réparer, même pour intervenir, il vous coûte de l'argent. Bon, nous avons deux. Que, disons, des
grands appareils peut coûter combien?
Oh, ça varie, hein, ça va de 500 000 dollars à 20 millions de dollars, hein, même 80 millions de dollars. Hein. Ça dépend, c'est lui qui vous prenez.
Mm-hmm.
Hein, s'il est neuf, s'il est d'occasion, ou s'il est entre les deux, quoi.
Mm-hmm.
Mais là, ce n'est pas les grands problèmes, mais ici, nous avons deux actes. Nous avons la compagnie nationale d'une part, et les privés. La compagnie nationale, on la comprend, elle peut avoir des moyens. Hein, qui peut venir de l'État congolais.
Mm-hmm.
À ce moment-là, c'est plus facile pour elle de pouvoir gérer. Il suffit d'avoir maintenant des hommes capables de concrétiser la vocation que la compagnie, plutôt l'État congolais, attend d'elle. Bon, nous avons les privés. Ils veulent avoir des avions. Il faut aider, bien sûr, la population.
Mm-hmm.
Pour cela, ils doivent avoir de l'argent. Ils doivent chercher des avions fiables. Bon, si vous avez des avions fiables, vous devez avoir maintenant l'infrastructure nécessaire.
Mmh.
Hein, soit pour les réparer, il faut avoir les hommes capables, bien formés, pour pouvoir les gérer.
Mmh.
J'ai entendu ici, il faut seulement contrôler ces avions au départ. Madame, je vous dirais, il y a presque tout le monde. Hein, on doit demander à tout le monde vraiment d'être attentif à l'exploitation de l'avion.
Mmh.
Mais puisque nous avons tout le temps des accidents qui reviennent souvent, mais moi ici, alors, je dirais tout simplement que la personne qui est capable en ce moment-là d'assurer cet avion dans des conditions fiables, c'est le pilote commandant de bord. Parce que c'est à lui que revient la sécurité. C'est lui qui va prendre cet avion pour l'amener en l'air. Les autres J'ai entendu parler d'ailleurs d'un cercueil au roulant, mais ça c'est un cercueil volant. Donc il faut que quand il passe du sol vers l'espace, ben, c'est le commandant de bord qui doit être sûr que cet avion-ci a été bien chargé. Il est techniquement bon. Hein? Sa navigation est bien faite. J'ai entendu d'ailleurs que c'est un avion qui a eu une panne sèche. Je n'ai pas vérifié.
Bon, les enquêtes sont encore en cours.
Bon, les enquêtes sont en cours, je ne peux pas confirmer, mais ce sont les informations qui partent. Mmh. Bon. C'est pour ça que je voudrais dire que si, admettons, l'avion n'a pas assez de carburant, c'est le seul commandant de bord qui doit déterminer la quantité minimale pour faire un vol de point A au point B avec la direction voulue. Bien sûr, il prendra du carburant que les financiers, les commerçants, bien sûr, n'aimeraient pas du tout entendre parler parce que ça coûte cher. Ils aimeraient bien mettre le moins possible. Hein, parce qu'un avion, quand on le prend, c'est pour être rentable. Or, le pilote, ici, il a deux rôles. Il est technicien d'abord, qui a volé son avion, et comme on lui a appris d'ailleurs dans l'art de voler, hein, de façon à garantir la sécurité, mais il est en même temps aussi gestionnaire de son vol. Hein. Si c'est dans une compagnie nationale comme chez nous, nous demandons seulement à ce que non seulement nous allons transporter, mais il faut que nous y gagnions quelque chose.
Oui.
Ceci est valable pour les compagnies privées aussi. Ils veulent aussi gagner, parce que lorsqu'ils achètent des avions, c'est parce qu'ils ont vu qu'avec un agent, ils peuvent se faire de l'argent. Mais il faut absolument qu'ils acceptent que cet avion paye le plus gros.
Oui, c'est ça.
Bien sûr, ça va toucher à leur poche, mais il faut qu'ils acceptent de payer gros. Donc, il ne faut pas seulement dire j'ai un avion, en plus, il doit avoir l'argent pour acheter et les pièces de rechange et acheter le carburant nécessaire et former le personnel. Parce que former le personnel n'est pas une mince affaire aussi, ça coûte très très cher. Mais vous devez accepter de former des personnes pour que votre avion vole en toute sécurité.
Oui, donc vous avez donné l'aspect, le côté du pilote, mais aussi des auditeurs qui ont soulevé la question des services de l'État qui doivent normalement essayer de faire un contrôle méthodique à chaque étape. Est-ce que chez nous, ça se passe comme ça?
Je vous l'ai dit au moment où j'ai venu d'arriver que, bon, là, ce sont maintenant, disons, les dispositions que l'État doit absolument faire. Je vous ai dit qu'il faut demander à ce que les responsables de l'État viennent d'abord nous expliquer qu'est-ce qu'ils ont mis en place pour pouvoir vraiment sécuriser nos avions dans l'espace congolais. C'est eux qui doivent dire.
Normalement, mais vous, quand, à l'époque, quand vous entrez dans l'avion, vous allez dans le cockpit, avant d'arriver à ce niveau-là, comment ça se passe normalement? Est-ce qu'il y a des services à chaque moment qui viennent vérifier le carburant, qui viennent demander aux techniciens, aux mécaniciens, est-ce que c'est bon? Expliquez-nous un tout petit peu.
De notre temps,
nous n'accusons personne, mais nous voulons savoir comment ça se passe.
De notre temps, on était très rigoureux. L'État était bien géré. L'aviation était vraiment bien gérée. Il y avait chaque fois, avant que je ne prenne un avion, il y avait toujours les gens de carburant qui étaient là. La RVA était là. On devait absolument savoir que cet avion répond aux normes. La compagnie aussi nationale avec ses pilotes devait savoir si la RVA aussi avait mis à notre disposition les infrastructures nécessaires. Les pistes sont bonnes, dans quel état, les aides de navigation fonctionnent, les services de la météorologie fonctionnent, parce que tout cela va nous garantir, va garantir la société pour pouvoir assurer la sécurité. Ça, c'est de notre temps. Bon, on a constaté qu'une dégradation progressive, justement.
Dans tous les secteurs aussi.
Non, je parle plutôt d'aviation ici. Comme c'est dans le domaine de l'aviation qui me concerne, je vous dirais même plus, d'ailleurs, en tant que responsable de l'opération CELAC, j'ai dû, l'année passée, me décider d'aller moi-même en vol avec des pilotes. C'était pour aller constater exactement comment se passe l'exploitation dans l'espace aérien congolais. J'en étais vraiment surpris, madame. J'ai eu à parler avec des pilotes qui étaient des étrangers, avec lesquels nous vivions tout cela. Ils prenaient même des photos. C'était des Chiliens. Que ce soit la piste, que ce soit le contrôle. Vraiment, nous étions en train de nous demander si réellement, nous étions dans un espace
On sent qu'il n'y a plus autant de rigueur concernant, par exemple, le contrôle de savoir si les pilotes ont une licence appropriée, si l'avion même a une licence, même les mécaniciens, est-ce qu'ils sont aptes, donc tout ça, c'est beaucoup de choses.
Tout cela, vous l'avez dit, madame, effectivement, c'est en principe ce qui doit se faire. Hein. Dans un état moderne, en tout cas, on ne peut pas mettre un avion si, dans un espace qui n'est pas du tout, hein, qui n'est pas convenable.
Mm-hmm.
D'ailleurs, ça peut choquer tout le monde. Vous prenez un pilote qui vient de l'étranger, vous le mettez en tout cas dans notre espace aérien, il va se poser beaucoup de questions. Je ne dis pas s'il aura des réponses correctes comme il le veut, mais enfin, il sera un peu surpris de voir que ce n'est pas comme chez lui.
Comme chez lui. Donc, espérons qu'il y ait cette émission, c'est pour des propositions, voir comment est-ce qu'on peut améliorer. C'est vrai que tous nos auditeurs ne sont pas nécessairement du domaine. Heureusement que vous êtes là dans le studio pour éclairer la lanterne des uns et des autres. Nous allons écouter Frédéric qui est à Kinshasa juste après ceci.
Découvrez les après-midi de Radio Capi de lundi à vendredi à partir de 13h. Des recettes, des reportages sur la vie quotidienne, des paroles d'enfants, des rubriques de femmes et des balades zigzag. Et enfin, un brin de culture, c'est dans Découverte. Un rendez-vous Radio Capi pour des après-midi promeneurs. Découverte, de lundi à vendredi, à partir de 13h, heure de Kinshasa, avec Nico Fugangela.
Frédéric, bonjour.
Bonjour, madame Chantal.
On vous écoute. Vous êtes ici à Kinshasa.
Merci beaucoup pour cette plateforme d'abord.
Mm-hmm.
Je viens de suivre M. Ilunga qui vient d'intervenir. Il a dit qu'il a vu des pilotes en train de prendre des photos. Moi, je crois que ce n'est pas grave de prendre des photos. Nous suivons par exemple certains forums à l'étranger, la Tour de France, il y a des avions qui prennent des photos, il y a des hélicoptères qui prennent des photos, donc c'est pas une divagation lorsqu'un pilote prend des photos. Plutôt, je voulais qu'on revienne sur les semaines qui pleuvent chez nous ici. Je dirais qu'on peut enlever les côtés accidents. L'accident, ça arrive à tout moment. D'ailleurs, il y a eu en Pologne, le président de la République a perdu la vie avec
ce n'est
pas une spécialité congolaise, mais les accidents arrivent. Mais aussi, une histoire congolaise dans le Sénat. J'avais déjà fait un reportage il y a 3 ans, lorsqu'il y avait eu un accident ici à Kinshasa, Donc, je crois que j'étais vraiment sidéré. Et je crois, par après, on avait eu à limoger les ministres des Transports, je crois.
Mm-hmm.
Oui, on l'avait limogé. Mm-hmm. Mais je crois que nous ne posons pas assez de questions. La première des questions peut être, c'est un avion qui vient de s'écraser chez nous. C'est un avion belge. Et le propriétaire est belge. Et je suis désolé que lui-même ait péri dans, les propriétaires aient péri dans l'accident. Mais combien d'accidents surviennent, par exemple, en Belgique? Pourquoi est-ce que chez lui, là-bas, les accidents, les appareils comme ça, ils s'écrasent, parce que ça vient seulement s'écraser chez nous. Lorsqu'on fait les tours des avions, les milliers d'accidents que vous venez d'énumérer là, on dirait qu'il y a peu d'agents congolais qui se sont écrasés des pilotes et congolais. Ma question serait, est-ce que nous ne pouvons pas nous poser des questions, faire des analyses comparatoires, par exemple, sur les agents qui s'écrasent là? Est-ce que ce sont les agents de la MONUSCO? Est-ce qu'ils connaissent les mêmes difficultés? Est-ce qu'ils ont une rigueur, je dirais, exemplaire? Pourquoi est-ce que notre gouvernement ne peut pas prendre, ne pas avoir honte et prendre des exemples ailleurs, là où ça marche? Production que vous avez suivie, vous avez dit que les chemins de fer non plus ne vont pas. Mais nous ne devons pas aussi laisser fermer les pas. Il y a Sadej qui disait que sans les chemins de fer, les communes ne vont pas impénir. Mais pourquoi est-ce qu'on néglige les chemins de fer pour privilégier l'espace aérien qui est en lambeau comme ça? Ça doit aussi nous poser des problèmes. Moi, je privilégie les chemins de fer, qu'on nous arrange les chemins de fer.
Mm-hmm.
Ça charrie beaucoup plus de morts, même si on aura des premières classes, troisième classe, deuxième classe. Il y a des gens qui vont préférer prendre ça.
Mm-hmm.
Il y a par exemple Beckham. Hein, il y a Beckham qui un joueur footballeur anglais qui dit ne prend pas la vie, il ne prend pas.
Frédéric, on pourrait aussi être un peu plus réaliste. Vous savez, quand même, pour pouvoir aménager un chemin de fer, ce qu'il faut par rapport à celui qui va prendre son avion, vous voyez que les investisseurs vont plus chercher à installer des compagnies aériennes que de pouvoir construire des chemins de fer.
Vous avez raison, mais justement, il y a les gens qui sont en train de nous écouter. Ce n'est pas un travail qui est privé ou bien qui est un institut que ça. C'est une entreprise gouvernementale. C'est un État, nous sommes un État indépendant. Nous venons de chanter dans l'hymne national. Un très grand État, nous voulons encore les mettre. C'est un chantier que l'État doit prendre en charge. On peut faire une moratoire et suspendre toutes les compagnies aériennes. Des fois, nous n'allons pas perdre. Hein. Nous n'allons pas beaucoup vraiment perdre. À l'époque coloniale, avant l'arrivée de l'avion, on les faisait moins, ils privilégiaient les routes. Donc, que les autorités de la RVA, et l'image là, ils ne peuvent pas prendre des décisions. Le gouvernement peut prendre des décisions qu'on puisse faire l'analyse comparative. Ils ont des spécialistes de la MONUSCO. La MONUSCO peut aussi nous aider à sécuriser ça aussi, sécurité. Hein, ils peuvent nous aider à sécuriser l'espace aérien aussi.
Mm-hmm.
Ça, pas faire voler des cercueils, voilà, comme ça, après, on va faire des discours après. Et au Parlement, je crois qu'on ne va même pas parler des ça. Il n'y a pas un ministre à suspendre, un ministre qui aurait donné des autorisations. On ne va pas les parler, on ne va pas statuer sur ses ventes, statuer sur leurs histoires qu'il y a pour entrer de l'argent. Mais j'estime qu'on doit faire une analyse des fonds, puisque c'est terrible. Hein. Moi, j'ai déjà assisté à Kinshasa, mais je ne vous même pas des trucs que j'avais vu. On doit prendre des vies au sérieux. Ce n'est pas parce que le Parlement ne va pas parler de ça que nous aussi, les populations, nous allons demain encore, nous allons prendre des avions. Donc, c'est des problèmes qui étaient, les commandants, ils peuvent bien les dire là. On prend des photos dans l'avion, ce qui n'est pas un problème.
Merci beaucoup, Frédéric. Peut-être que tout de suite, notre invité pourra donner plus d'explications. Peut-être notre auditeur n'a pas très bien compris ce que vous voulez dire en déclarant qu'il y a certaines personnes, certains pilotes qui prennent des photos. Peut-être qu'ils prennent des photos des vieux appareils qui existent ici. Bon, mais vous allez me donner plus d'explications. Nous allons écouter aussi Séraphin Lagoma. Bonjour.
Oui, bonjour, madame Marie-Chantal.
Et Séraphin, on vous écoute. Quelles sont vos propositions?
Oui, bien sûr. Je pense que l'accident est d'abord une erreur de la société humaine, parce que là, je ne sais pas quoi en milieu. Mais malgré qu'il soit un peu une erreur, je crois qu'il y a quand même des préventions à prendre pour qu'on n'arrive pas à cet accident-là. Aujourd'hui, je pense que s'il y a la reconnaissance des accidents d'avion, permettez-moi pour le faire, mais c'est la conséquence plutôt de l'union avec la majorité mécanique au sein de la chambre basse du Parlement. Pourquoi je dis ça? Parce que vous êtes en Europe, il y a un certain temps à cette majorité que j'ai toujours appelé une majorité mécanique, permettez-moi pour le faire, madame, en fait partie le ministre du Transport qui voulait un peu enseigner ce ministre. Là, je ne vais pas citer son nom, parce que c'est un peu prévu dans votre émission. A fait un peu partie cette ancienne ministre qui voulait rétablir un peu de l'ordre dans ce secteur-là au profit d'un ancien conseil de chef de l'État, aujourd'hui un diplomate dans un pays voisin. Mais qu'est-ce que vous me demandez de proposer, madame? Je crois que c'est la haine que vous engagez ce débat. On avait fait votre proposition, mais jusque-là demeure encore la lettre morte. Moi, je voudrais dire ceci. Il faudrait ce que nous ayons quand même un gouvernement responsable par le biais de ce ministère du Transport et de Communication qui a un contrôle sérieux. Je vous demande sérieux. Moi, actuellement, je t'appelle, je suis un aéroport international de Dieu. Je suis en train d'attendre un avion que je vois pendant l'année aujourd'hui à 3 et 14 heures. Donc, j'ai même peur que je n'arriverai même pas. Donc, je suis en train de mettre mon voyage dans la police de Dieu. Donc, j'ai peur. Il faudrait ce qu'avant que je monte, il faudrait ce que je vais plus que je ne suis plus content que nos appareils. Donc, c'est pourquoi il faudrait ce que d'abord le contrôle. Sur rien dans les avions. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, madame, nous avons l'aviation civile qui est là. Qu'est-ce que cette aviation civile fait? Est-ce que ça ne veut pas de contrôle vraiment? Vous trouverez dans un cargo, il y a des personnes qui y montent. Mais c'est presque même pour d'autres pays, vous ne trouverez jamais cette anarchie-là. Il faudrait qu'il y ait d'abord un contrôle préalable pour rassurer la sécurité des voyageurs. Et ensuite aussi, déplacer tous les appareils qui ne remplissent pas les normes. Mm-hmm. Et surtout aussi, entretenir nos aéroports, que nos aéroports aient quand même cette partie-là des aéroports internationaux.
Mm-hmm. Merci, Séraphin, vous êtes à Goma et bon voyage. Hein. Surtout, il n'y a que Dieu qui s'y protège. Merci pour votre intervention, Bekestela Kisangani. N'oubliez pas de nous appeler pour nous dire si vous avez fait un bon voyage. Nous allons aussi écouter Séraphin, il est ici à Kinshasa. Bonjour. Séraphin de Kinshasa?
Allô, madame?
Oui,
c'est pas Richard.
C'est docteur Richard.
Oui, bien sûr, c'est pas Séraphin. Bonjour, madame Marie Chantal.
Bonjour
aussi à votre invité, le pilote Ilonga et tous les auditeurs.
On vous écoute, docteur.
Merci beaucoup. Les accidents d'avion plongé aujourd'hui dans les catastrophes constitue un véritable problème majeur de santé publique si on considère le nombre de morts par an en RDC et dans le monde. Donc c'est une chose à prendre au sérieux comme nous prenons au sérieux la lutte contre le choléra, la lutte contre la malnutrition, etc. Deuxièmement, hommage soit rendu au feu maréchal Mobutu Sese Seko qui disait à l'époque, quand il a libéralisé l'espace aérien congolais, on ne profite pas de sa compréhension pour qu'on fasse le foula-foula aérien. Sinon, on ferait décoller des cercueils transportant les vivants. Félicitations aussi au pilote Ilunga. J'espère que c'est celui qui a conduit, disons, qui a piloté DC-10 10 ans avant les Belges. Parce que maintenant, par rapport au précédent auditeur, c'est comme si nous avons des leçons aussi à la Belgique. Alors, mon problème, c'est lequel, si je veux appuyer et donner des réponses ou des directives, je dis ceci. Il faut qu'il y ait de la rigueur et l'application sans faille de la tolérance zéro dans la gestion de l'espace aérien congolais. Mm-hmm. Je crois votre invité était plus que clair là-dessus. Mm-hmm. Il y a décadence à tel point que tout ce qui se passe ici aujourd'hui est une chaîne de défaillance à partir même des engins jusqu'aux gens qui régulent le décollage et l'atterrissage des avions dans les aéroports. Mmh. Quel type d'avion nous avons? Quand on nous dit que c'est un avion tchèque, mais c'est une zone secondaire de technologie aérienne, comment on peut accepter des avions comme ça au fond? Quand on nous dit que le pilote avait plus de 60 ans, où était le check-up de sa santé? Peut-être qu'il a fait une crise cardiaque dans en plein vol. Mmh. Vous savez aussi, madame, les gens se communiquent des choses. Mon ministère, le ministère de la Santé publique, est endeuillé. Une collègue de la quatrième direction est endeuillée. Quand l'avion décollait, son frère a téléphoné pour dire l'avion décolle, mais le pilote ne peut pas mettre le carburant dans l'avion. Le petit qui va faire ses études à l'université de Kinshasa, là-bas, nous ne savons pas s'il va arriver. Et il n'est jamais arrivé aussi, il n'arrivera jamais. Donc, il faut de la rigueur et de la tolérance zéro sans faille sur l'espace aérien congolais.
Merci, Jean-Marc. Merci beaucoup, vous êtes ici à Kinshasa. Nous allons écouter Florent de Bujumbura. Bonjour. Florent? Nous avons perdu Florent.
Oui,
vous êtes au bout du fil. On vous écoute, Florent.
Oui, bonjour. Je pense que ce qu'on a dit, enfin les autres ont dit, c'est tout à fait valable. C'est un domaine où il faut mettre donc, de l'ordre. Si je suis intervenu, c'est pour donner un témoignage, parce qu'une fois, j'étais à l'aéroport, et je devais aller à Chicapa, et je suis monté dans un avion, et où j'ai vu qu'il y avait des passagers qui étaient assis normalement dans des sièges de l'avion. Il y a d'autres qui étaient assis comme sur un banc là, mmh. Et devant les passagers, il y avait des frites. En l'occurrence, c'était des poissons frais, et ça dégoulinait même, et j'étais dans cette avion là. Et j'ai dû appeler le directeur du cabinet de la ministre, qui a fait annuler les vols.
Mmh.
Donc les agents de l'aéroport, tous sont venus là-bas, voulant m'intimider, disant que, bon voilà, qui a signalé que cet avion ne peut pas décoller. Je dis c'est moi, parce que je dis que les normes ne sont pas respectées.
Mm-hmm.
Et tous ces gens-là m'ont menacé. Et j'ai dit non, mais cet avion n'est pas dans les normes, ne peut pas décoller. Et les contrôleurs de RVA sont venus, les agents sont venus, ils ont constaté qu'effectivement, c'est-à-dire là, elle ne remplissait pas les conditions pour voler.
Mmh.
Alors, ce que je veux dire, c'est que nous avons des agents qui des agents d'RVA, qui sont pas rigoureux, qui ne respectent pas les normes. Mmh. Et cette personne-là allait décoller, mais quand ils sont venus, sur ma déclaration, on a constaté que l'avion ne remplissait pas les conditions pour décoller. Donc, il n'y a pas le sérieux, il n'y a pas du tout le professionnalisme, parce que les normes ne sont pas respectées. C'est comme a dit le précédent auditeur, il faut un tolérance zéro dans tout. Il faut que nous soyons sérieux dans ce que nous faisons. Deuxièmement, notre pays n'a pas une compagnie aérienne. Ce qui fait que tous les autres aventuriers viennent dans le domaine et créent des sociétés d'aviation qui sont finalement des plateformes aériennes comme a dit le président auditeur.
Merci.
J'aimerais vraiment que nous puissions avoir une société d'aviation nationale qui va respecter les standards, comme ça nous allons éliminer de la course toutes ces sociétés d'aventuriers.
Merci beaucoup, Florent. À partir de Bujumbura, vous demandez aussi plus de rigueur dans le secteur. Il y a Alain qui nous a écrit à partir de Kinshasa. À mon humble avis, je pense qu'il faut encourager la reconstruction des routes. Bandundu n'est pas aussi éloigné pour qu'on aille par avion. Si les routes sont bonnes, on éviterait tous ces accidents. Je présente une fois de plus mes condoléances à la communauté Bondeko qui a perdu son comptable avec lui, son épouse et ses deux enfants. Donc c'est toute une famille qui est partie au cours de ce crash. Vraiment, nos condoléances. Nous allons écouter Monsieur Noël et les conseillers cours d'appel, mais avant cela, nous le gardons en ligne, le temps de pouvoir redonner la parole à notre invité.
Parole aux auditeurs.
Commandant Ilunga, alors la fameuse photo, c'était une photo du coup.
Bon, pourquoi tellement ça s'est gardé sur la photo dont je parlais ici? Bon, c'est-à-dire que je suis assez regardant à bord des avions, je ne dirige pas toi les pilotes avec complaisance. Mais ils m'ont vu effectivement après chaque fois d'intervenir d'une façon rigoureuse. Et pour me compléter, moi je ne sais pas, mais ils prenaient quand même des photos. Et moi, j'ai discuté avec les techniciens au sol. Bon, ils arrivaient pour confirmer, d'y regarder ce que nous avons constaté. Que ce soit sur l'avion lui-même, que ce soit sur les pistes. Hein, et donc, c'était une preuve pour eux, hein, pour dire non, c'est le commandant est en train de voler, n'est pas une blague. Donc, ceci, c'est pour dire vraiment que nous devons prendre les choses au sérieux. Donc, on ne fait pas l'aviation vraiment avec complaisance. Non, on doit être très, très rigoureux. C'est pour ça que quand on m'a posé la question que dans notre temps, comment c'était, je dois rendre ici hommage à la Belgique, qui quand même, c'était la Sévenne à l'époque, qui nous a formés. Mais nous étions formés d'une façon très rigoureuse. Ils nous ont demandé de continuer à faire de même lorsque nous allions rentrer dans notre pays. Et quand nous sommes rentrés dans notre pays, nous avions trouvé cette rigueur d'abord de la part de nos collègues qui étaient là avant, donc des pilotes blancs, et nous n'avons fait que suivre exactement ce modèle. D'où nous étions très très sévères vis-à-vis donc de responsables au sol, de comme directeurs d'opération, à qui nous étions aussi assez rudes, quand parfois ils nous demandaient de faire des choses qui ne pouvaient pas, aller avec la personne civile. Donc c'est pour ça que quelque part aussi j'avais dit que le pilote est le dernier recours pour assurer la sécurité. Parce que c'est lui qui prend sa main, c'est lui qui a la vie à main. C'est lui le Dieu, dans l'avion. Après Dieu, c'est lui. Donc, il doit vraiment avoir cet amour de dire et d'expliquer, même aux gens qui sont au sol. Et je ne vous dis pas ça pour le plaisir, pour moi. Non, c'est pour que je puisse vous donner un avion et les personnes qui sont à bord dans des conditions sûres. Si, au sol, on ne peut peut-être pas le faire, si nous constatons tout ce que nous sommes en train de constater aujourd'hui, bien, il n'y a qu'une seule personne qui peut nous sauver, c'est le pilote qui va les prendre.
Et qui a la dernière décision.
Qui a le dernier mot.
C'est-à-dire si on peut voler ou pas du tout.
Exact. Et d'ailleurs, vous voyez quelqu'un ici a parlé, comme toujours j'ai entendu cela même à Banque-Lingienne, qui est le pilote, c'était le docteur a bien dit, parce que le pilote, plutôt le docteur a vraiment décrit ce que nous pensons, ce que moi aussi je vois. Il aurait eu 60 ans, et bon, il aurait eu une crise cardiaque, peut-être. Bon, je n'ai pas
vu. Il est quand même un pilote assez expérimenté.
Il est de ma génération, donc il nage entre bien sûr 60 et 65 ans. Hein. Bon, je ne peux pas dire qu'il a eu la crise cardiaque, mais admettons qu'il ait eu ça. Mais du point de vue médical, il n'est pas interdit aujourd'hui aux pilotes de voler au-delà de 60 ans. Ils peuvent le faire. Mais lorsque vous allez voler en tant que commandant de bord au-delà de 60 ans, vous devez avoir un copilote expérimenté, qui connaît très très bien l'avion, pour que en cas de pépin, c'est le copilote qui doit intervenir directement parce qu'il est expérimenté.
Mm-hmm.
Il ne peut pas avoir le même âge. Il doit être moins âgé que vous.
Mm-hmm.
Donc ça, c'est une réglementation aussi qu'on doit veiller dans toutes les compagnies aériennes. Mm-hmm. Parce que c'est une réglementation internationale de loi civile aujourd'hui.
Mm-hmm.
On ne peut pas mettre deux pilotes de même âge, c'est-à-dire 60, 60, non.
C'est pas possible.
Ou bien vous avez 60 et l'autre à moins que vous. Bon, quand on dit qu'il ne doit pas être à 59 ans et demi, c'est un âge au moins un peu plus jeune, quoi.
Oui.
Mais il doit être plus jeune, expérimenté et compétent pour pouvoir conduire cet avion-là au cas où vous avez un problème.
Mm-hmm.
Parce que, effectivement, ce que le docteur a dit, on a vu un avion qui a quitté, qui est resté de Bruxelles jusqu'à New York, et quand il est arrivé à New York, c'était un pilote qui était au-delà de 65 ans,
mm-hmm.
Eh bien, au moment où il a fini son vol, il a parqué l'avion, il a coupé le moteur, on n'a pas vu le pilote relever sa tête. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est mort.
Il
a eu la crise cardiaque. Donc, tous ces éléments-là ne peuvent venir que de l'ensemble des mécanismes que l'État doit mettre, c'est-à-dire l'aviation civile doit mettre en place,
mm-hmm.
pour pouvoir sécuriser un avion qui va en l'air.
On va écouter M. Noël, qui est conseiller à la Cour d'appel. Bonjour, M. Noël.
Bonjour.
Oui, on vous écoute. Quelles sont vos propositions? Vous êtes ici à Kinshasa pour pouvoir améliorer la sécurité aérienne.
Bon, j'ai des propositions. D'abord, pratiquement mes condoléances aux familles et pour eux. La première des propositions est celle-ci. D'abord, les commandants Lombardi en train de me suivre. Je crois qu'ils devaient répéter à tous les pilotes qu'ils sachent que la navigation aérienne est d'abord normative et qu'en cette matière, toutes les règles sont généralement bonnes.
Mm-hmm.
Et ce qui est plus dangereux, c'est quoi? C'est l'erreur de décision. Je pense que j'ai été avec beaucoup de pilotes formés et le commandant Ilungale sait très bien, c'est l'erreur de décision qui est très très dangereuse,
mm-hmm.
dans la navigation aérienne. Et comme vous le constatez, au départ, il y a eu un problème, on dit qu'il n'y avait pas assez de carburant, mais au lieu effectivement de ne pas décoller, le pilote a décidé de décoller. Et l'erreur de décision, c'est au niveau du décollage et de l'atterrissage. Ce qui est très très dangereux. Moi, je pense qu'il est temps, au lieu de stigmatiser seulement la qualité des avions, il est temps de remettre tous nos pilotes ici au recyclage, qu'ils soient belges, qu'ils soient congolais, de manière à ce qu'on puisse quand même leur répéter les principes de base de la navigation aérienne,
mm-hmm.
et éviter de telles catastrophes. Donc, on doit les remettre au recyclage tous, au lieu seulement de stigmatiser la qualité des avions, parce que
merci.
C'est l'erreur de décision qui est à la base des accidents.
Merci.
Le commandant ne peut me contredire.
Merci beaucoup, M. Noël. Nous allons écouter aussi Alphonse. En une minute, vous êtes à Kinshasa. Quelles sont vos propositions?
Merci beaucoup, madame, pour la parole. Je voulais juste compléter les deux derniers conseillers. Je crois qu'il a abordé le sujet et le commandant Yulou également, parce que mon intervention portait plus par rapport à l'âge, parce que le docteur a essayé de stigmatiser l'âge des pilotes, mais l'âge des pilotes n'a rien à voir, parce que ça se rend comme le commandant Yulou l'a dit, on peut toujours voler dans ce type d'avion qui ne prend pas autant de passagers aussi. Alors, le problème que je voulais également soulever, c'est que ce qui est arrivé, le commandant Lingala l'a dit au départ, c'était un pilote expérimenté qui le fait. C'était un pilote expérimenté, ce n'était pas un petit pilote. Et en plus, c'était le patron de la société. Je suis en train ici de douter qu'un patron de la société qui va monter dans un avion sachant que je vais mourir, alors je prends carrément moins de carburant. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut se porter et comme ça pour dire que bon, je vais aller mourir si ce n'est pas un kamikaze. Bon, je ne pense pas déjà fois que le commandant Dany Filémont est devenu un kamikaze pour se décider d'aller mourir, ne prenant pas autant de carburant qu'il fallait. Donc nous pensons qu'il y a eu un accident qui est arrivé, comme le commandant l'a dit, plusieurs paramètres, les fonds, l'équipe d'enquête menée sont en fait jusqu'au bout, lié que les gens avancent des propositions, excusez-moi, peut-être qu'ils ne tiennent pas,
mm-hmm.
c'est un accident. Même les avions dernier cri aujourd'hui, on en a vu en Chine, en Pakistan,
mm-hmm.
un peu partout, ces avions-là sont tombés. Donc ce sont des accidents qui arrivent. Laissons l'équipe d'enquête mener l'enquête jusqu'au bout et le résultat pourra peut-être déterminer ce qui est arrivé exactement. Voilà.
Merci beaucoup, Alphonse, pour votre intervention. Vous êtes ici à Kinshasa. Nous revenons à vous, commandant Ilunga. Nous sommes à la fin de cette émission. Vous avez suivi ces interventions. On a l'impression, vous avez déploré que les enquêtes souvent qui commencent piétinent. On ne connaît pas souvent comment on arrive à conclure ces affaires. Pourtant, ces conclusions sont vraiment très importantes. Quelle est l'importance vraiment de ces conclusions lors d'une enquête, lors d'un crash?
Bon, ces conclusions, madame, nous permettent d'abord de connaître exactement ce qui s'est passé et ces failles doivent être corrigées justement par les responsables des compagnies aériennes.
Mmh.
C'est pour ça que nous demandons au moins que ces conclusions d'enquête soient envoyées à toutes les compagnies aériennes, soit envoyé aux services intéressés.
Mm-hmm.
Hein, pour des façons à voir comment il faut éviter tous ces accidents-là.
Mm-hmm.
Hein, je voudrais même ici féliciter monsieur le conseiller à la Cour d'appel
mm-hmm.
qui a effectivement confirmé ce que je voulais dire, même monsieur Alphonse qui vient de parler le tout dernier. Hein, comme je vous l'ai dit, c'est le pilote. Hein, puisque dans notre pays, hein, à ce stade-ci, on ne peut pas incriminer tel et tel parce qu'on ne connaît pas très bien qui peut se dire c'est moi qui suis responsable, c'est moi qui ai commis cette erreur.
Mm-hmm.
Alors, pour éviter à ce qu'on puisse, qu'on attend d'abord, hein, que
ce
mécanisme-là de surveillance, de supervision, hein, des professionnels en la matière, parce qu'il ne suffit pas seulement de dire je travaille dans telle compagnie que je deviens expert, non.
Mm-hmm.
Il faut être expert, c'est-à-dire pour être formé pour pouvoir surveiller, pour pouvoir superviser, pour pouvoir sanctionner. Il faut être sûr. En attendant que tout cela soit mis en musique,
mm-hmm.
j'ai demandé vraiment aux pilotes.
Mmh.
Je demanderai au pilote absolument d'être vraiment le dernier recours. C'est eux d'ailleurs le dernier recours, mais ils doivent être sévères. Hein, qui n'acceptent pas un avion lorsqu'il ne remplit pas les conditions qu'il faut. Même si c'est son patron, hein, si c'est son PDG ou son DG qui lui dit pars, il doit dire non, mon avion n'est pas prêt pour partir et je ne pars pas. Il sauverait l'avion du PDG. La vie des clients du PDG
et
sa propre vie à lui.
Merci beaucoup, commandant Inga, d'avoir accepté notre invitation. Nous disons aussi merci à tous les auditeurs, ceux qui sont intervenus, ceux qui nous suivent avec attention en FM ou sur www.radiookapi.net. Nous nous retrouvons demain dans un autre numéro de Parole aux auditeurs. La semaine dernière, le chef de l'État a remis un chèque de 10 millions de dollars à la minière de Bafanga, un fonds pour la reprise des activités minières de l'entreprise. Nous nous penchons sur les entreprises du portefeuille de l'État qui connaissent toutes les difficultés de fonctionnement et d'autres risques de mettre la clé sous le paillasson. La question, que faut-il faire pour relancer les entreprises du portefeuille de l'État? Vous avez réagi dès à présent en nous écrivant l'adresse internet pa@radiookapi.net. À la prochaine.